Vous écoutez, on lit pour vous.
Un rapport pour ouvrir les yeux sur la complexité menant à l'itinérance autochtone. Un texte de Marie-Laure Josselin, paru le 25 avril 2024 sur radiocanada.ca. La hausse du financement et la gouvernance sont les clés pour créer une réponse efficace et complète à l'itinérance autochtone dans la métropole, a plaidé le réseau de la communauté autochtone de Montréal. Au cours d'un rassemblement auquel ont participé 300 personnes impliquées dans le domaine, le réseau a lancé son rapport intitulé « De nos yeux aux vôtres ». Afin de faire la lumière sur les facteurs complexes et croisés qui contribue à la surreprésentation des personnes autochtones en situation d'itinérance à Tiotiaque, Montréal. Le rapport a été pensé, mené et finalisé par des autochtones. On essaie de changer le récit et de rendre les peuples autochtones souverains de leurs propres données, a expliqué la directrice générale du réseau, Leilani Shah. L'objectif du rapport, a-t-elle poursuivi, est de réduire les silos et de rendre l'information accessible à tous. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Le geste de redonner le pouvoir à une organisation autochtone pour la distribution des fonds nous permet de mieux répondre aux besoins cernés par la communauté, a noté Mme Shah. Voir toutes ces personnes regroupées pour parler d'itinérance autochtone, ça représente l'union, a expliqué la directrice générale de Projet autochtone du Québec, Stacy Boucher-Anthony. L'union entre les différents acteurs et organismes du milieu autochtone de Montréal et des environs, qui cherchent à se rassembler pour partager sur les problèmes, les meilleures pratiques, les pistes de solutions. Le rapport fait état de différentes raisons contribuant à l'itinérance autochtone, dont le système de protection de l'enfance, les obstacles à l'éducation, les obstacles financiers, le profilage racial de la police ou encore l'incarcération. Le manque de services dans les communautés oblige aussi des membres à se déplacer vers les zones urbaines pour accéder à des services essentiels. Le rapport compte une quarantaine de recommandations, a expliqué son principal auteur, Bobby Manning-Leduc. Parmi celles-ci, le réseau recommande de donner la priorité aux organisations autochtones en ce qui concerne le financement, d'offrir un soutien culturellement approprié et du logement aux enfants autochtones qui sortent du système de protection de l'enfance, ou encore de créer davantage de logements supervisés avec des services intégrés. Il est aussi question de gouvernance autochtone, d'éducation, de santé mentale, de matériel et de logements adaptés pour les personnes qui consomment. Enfin, le réseau appuie la mise en œuvre de cercles de justice autochtone. En réorientant les financements pour mieux soutenir les organisations autochtones, en encourageant la gouvernance autochtone et en améliorant le partage et la coordination des informations, nous pouvons créer une réponse plus efficace et plus complète à l'itinérance chez les Autochtones, a lancé Leilani Shah. Les personnes autochtones représentaient en 2018 approximativement 12 % de la population en itinérance visible à Montréal, alors qu'elles ne constituent que 0,6 % de la population totale de la ville. Et depuis la pandémie, ça a vraiment augmenté, a indiqué la directrice adjointe du réseau, Amanda Moniz. On voit ici une pression sur nos services qui, presque tous les jours, sont sollicités au maximum. On essaie d'être créatif. On essaie d'augmenter notre capacité. Mais nos moyens ne sont pas illimités, ni notre équipe. A renchéri la directrice générale de Projets autochtones du Québec, Stacy Boucher-Anthony. Pour Amanda Moniz, la priorité est donc d'avoir du financement pour accroître la capacité d'agir des organismes autochtones, car ce sont eux qui font le travail, qui desservent la communauté autochtone à Montréal. Caroline Dusablon, directrice adjointe des partenariats urbains du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, a réaffirmé son engagement à continuer dans la voie de la sécurisation culturelle tout en assurant réfléchir, en partenariat avec les organismes autochtones, aux solutions de demain. L'engagement dans la lutte contre l'itinérance autochtone va au-delà du financement. On s'efforce toujours de prendre en compte les spécificités vécues par les populations autochtones, a-t-elle précisé. Dans une vidéo diffusée au cours de l'événement, les ministres Yan Lafrenière et Lionel Carman ont assuré vouloir continuer de travailler de concert avec les organismes. Ils en ont profité pour indiquer que Québec avait alloué 4,6 millions de dollars au réseau de la communauté autochtone à Montréal. Cette somme a été redistribuée aux 12 partenaires que compte le réseau. Plusieurs projets sont donc en cours de réalisation ou prévus, comme un centre de traitement des dépendances et la clinique de première ligne en santé autochtone gérée par l'organisme Montréal Autochtone. Projets autochtones du Québec, PAC, a déjà lancé une navette communautaire afin d'orienter les Autochtones vers les différents services. Santé, station de métro, refuge. En juin, PAC va lancer un projet de logement transitoire pour les gens qui souhaitent arrêter toute forme de consommation. La maison devrait ouvrir en juillet. C'était un rapport pour ouvrir les yeux sur la complexité menant à l'itinérance autochtone. Un texte de Marie-Laure Josselin, paru le 25 avril 2024 sur radiocanada.ca. Ça déborde de tous les côtés. Un texte d'Henri Ouellette Vézina, paru le 17 avril 2024 dans La Presse. L'été s'annonce de nouveau difficile en matière d'itinérance à Montréal. Non seulement les ressources d'hébergement sont déjà pleines à craquer, mais surtout la détresse des usagers vulnérables est plus que jamais perceptible dans la rue et dans le métro. Devant l'ampleur du phénomène, un nouvel exercice de recensement se prépare. Ça déborde de tous les côtés en ce moment, lance sans détour Annie Savage, directrice du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, RAP-CIM. Son groupe, formé de plus de 100 organismes venant en aide aux usagers vulnérables dans la région, appréhende que le phénomène augmente encore davantage dans les prochains mois, dans un contexte où la crise du logement va en s'accentuant. Madame Savage est catégorique. L'écosystème communautaire fait tout ce qu'il peut avec les moyens qu'on lui donne présentement. Le gros problème, c'est le manque de place pour ouvrir des ressources. Ça nous empêche de déployer des projets qui viendraient répondre à des besoins, dit-elle. Tous nos établissements qui offrent des services d'urgence sont pleins. C'est un temps très difficile à la première ligne, confirme aussi le président de la mission Old Brewery, James Hughes. Il craint notamment que plus il y a de personnes en situation d'itinérance dans l'espace public, plus la population l'accepte comme étant une réalité permanente, ce qui est très dangereux. Un modèle 24-7. L'hiver dernier, Montréal comptait approximativement 1800 places dans des refuges de jour et de nuit. Si on inclut les autres ressources, dont les centres de dépendance, les hôpitaux et les logements sociaux, c'est environ 7000 places qui sont offertes pour cette clientèle. Selon Annie Savage, la solution doit passer par un programme finançant les lieux d'accueil 24/7 de manière permanente dans des locaux où les organismes sont propriétaires ou au moins locataires sur le long terme. Monsieur Hughes est d'accord. On doit absolument miser sur des services 24/7, 365 jours par année. Les mesures ponctuelles, on oublie ça. Il faut avoir une vision où les services professionnels sont là en tout temps. Et à plus long terme, on va solutionner l'itinérance par le logement. Point. Ces gens-là n'ont jamais rêvé d'être dans un campement ou dans le métro, note-t-il. Des enjeux complexes et variés. À la Ville de Montréal, le responsable de l'itinérance au comité exécutif, Robert Baudry, envisage aussi un été pendant lequel on va devoir être au front. Les enjeux sont de plus en plus complexes et variés, qu'on parle de santé physique, de santé mentale, de vieillissement de la population ou encore de la toxicomanie qui se transforme avec les drogues de synthèse, dit-il. Ça va prendre des investissements majeurs des gouvernements. On peut acquérir des terrains, mais ça prend de l'infrastructure. On ne peut plus travailler en réponse temporaire si on veut répondre à une situation d'urgence, ajoute M. Baudry, qui aimerait notamment que le réseau de la santé s'intègre davantage à l'intérieur des groupes communautaires. L'opposition, elle, déplore l'absence d'un plan d'action municipal visant à offrir des alternatives aux personnes qui se retrouveront dans des campements de fortune à l'approche de l'été. Nous invitons l'administration Plante à faire preuve de leadership et à augmenter le nombre de ressources d'hébergement 24/7 adaptées, affirme le conseiller Benoît Langevin. Par courriel, le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal se dit justement à finaliser le plan en itinérance pour la période estivale. Nous sommes en pourparlers avec tous nos partenaires, dont les organismes communautaires, affirme sa porte-parole Geneviève Paradis. Vers une énumération de l'itinérance. D'ici là, une énumération de l'itinérance hébergée aura lieu le 23 avril. Il ne s'agit pas d'un dénombrement à proprement parler qui mobilise des tonnes de bénévoles dans la rue, mais surtout d'un exercice administratif durant lequel les ressources sont invitées à compiler leur fréquentation et leur taux d'occupation. L'exercice est toutefois un coup d'épée dans l'eau, selon plusieurs intervenants. En septembre, les résultats du premier dénombrement officiel de l'itinérance depuis 2018 démontraient que le phénomène a bondi de 44 % en 5 ans au Québec, avec 10 000 sans-abri en date d'octobre 2022. Depuis cette date, toutes les parties s'entendent pour dire que ce chiffre a fort probablement bondi. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, avait annoncé une somme de 20 millions de dollars supplémentaires pour couvrir les besoins urgents, mais surtout, il s'était engagé à ce que le dénombrement se fasse de façon plus régulière. Notre objectif demeure de développer un continuum de services à l'année, allant des refuges jusqu'au logement supervisé. dit son attaché de presse, Lambert Drainville. Il rappelle que le gouvernement a cessé la fermeture des refuges au gré des saisons, qui auparavant n'étaient ouverts que de décembre à mars. Une enveloppe en ce sens a été reconduite pour 4 années additionnelles lors de la mise à jour économique de novembre dernier pour un investissement total de 123,7 millions sur 5 ans, ajoute M. Drainville. Le logement destiné aux plus vulnérables sera une partie importante de la solution pour la suite, alors que de plus en plus de projets voient le jour, permettant ainsi de ramener les personnes vers l'autonomie tout en libérant des places en refuge, conclut-il, en citant les exemples du projet Le Christin, de la résidence Bache-Chetty, de l'organisme Chez Doris, ou encore du pavillon Robert Lemaire. C'était « Ça déborde de tous les côtés », un texte d'Henri Ouellette Vézina, paru le 17 avril 2024 dans La Presse. Le logement social et communautaire à préserver pour prévenir l'itinérance. Un texte de James Hughes, paru le 29 mai 2024 dans Le Devoir. Les nouvelles récentes dans le secteur de l'itinérance ne sont guère réjouissantes. 2000 personnes se sont ajoutées à la population itinérante montréalaise entre 2018 et aujourd'hui, qui est passé de 3 000 à 5 000 individus. L'effet de la pandémie est donc bien réel. L'incidence des surdoses dans nos services d'urgence est aussi en forte croissance et l'utilisation de Naxolone est nécessaire presque quotidiennement. De plus, le phénomène absolu de l'itinérance, soit la présence de personnes dormant dans les parcs, les entrées de commerce et les rues, est de plus en plus répandue. La cause? La crise du logement, en grande partie. Entre 2016 et 2021, le Québec a perdu 115 000 logements de 750 $ ou moins par mois, dont 89 000 à Montréal. Le taux de vacance des logements abordables tourne autour de 1 %. Quant aux loyers des chambres et des studios modestes, ils ont augmenté de 8 % depuis l'an passé. Le marché locatif est sous pression, ce qui provoque une multiplication des évictions et, en conséquence, une hausse de l'itinérance. Selon le dernier dénombrement, 22 % des personnes nouvellement en situation d'itinérance ont été évincées de leur appartement. Celles qui fréquentent nos services d'urgence ou qui se retrouvent dans la rue ont moins d'options pour les mêmes raisons qu'elles ont perdu leur foyer, la crise du logement. Mais même si ces constats peuvent paraître décourageants, il y a lieu de rester optimiste. Voici pourquoi. Le gouvernement fédéral a annoncé le plus ambitieux plan de logement qu'ait connu le Canada depuis les années 1970. Ciblant presque 4 millions de nouveaux appartements d'ici une décennie, la mise en œuvre du plan pourra augmenter radicalement le nombre de logements abordables à travers le pays et, élément clé du plan, protéger le parc de logements abordables existant. Doté d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars en subventions et en prêts, le Fonds de protection des loyers a été créé pour aider les fournisseurs de logements abordables à acquérir des propriétés et à maintenir des loyers stables sur le long terme afin d'éviter que ces logements ne soient convertis en copropriétés inaccessibles ou en logements de luxe, a annoncé la ministre des Finances, Chrystia Freeland, lors de la présentation du dernier budget fédéral. Le gouvernement québécois vient de déposer un projet de loi pour interdire les évictions pendant une période de 3 ans ou jusqu'à ce que le taux d'inoccupation dépasse les 3 %. Elles seront interdites pour les changements d'affectation, les subdivisions et les agrandissements de logements. Le projet de loi propose aussi de mieux protéger les locataires aînés en interdisant l'éviction de personnes à faible revenu de 65 ans et plus, comparativement au seuil actuel de 70 ans, et en haussant le revenu d'admissibilité. Voilà une excellente nouvelle pour les ménages plus vulnérables. Après avoir fait l'objet de critiques, le Programme d'habitation abordable québécois, PHAQ, a été assoupli afin de mieux s'adapter au marché locatif actuel. La mission Old Brewery a pu récemment obtenir une subvention importante du PHAQ pour acquérir une maison de chambre de 46 portes dans le plateau Mont-Royal. Cela permettra de protéger l'abordabilité de ces lieux à long terme, d'apporter aux locataires les services de soutien dont ils ont besoin et de réduire le risque d'itinérance de manière importante. À ces mesures s'ajoute le règlement pour le droit de préemption adopté par la Ville de Montréal il y a 2 ans. Ce règlement permet à la Ville d'acquérir en priorité, sur tout autre acheteur, des terrains ou des bâtiments, notamment pour réaliser des projets au bénéfice de la communauté. Depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, plus de 100 maisons de chambre ont été assujetties aux droits de préemption. Les propriétaires de ces maisons de chambre doivent donc faire parvenir à la Ville un avis concernant leur intention de vendre leur immeuble avant d'accepter une offre d'achat. Montréal a été la première municipalité au Québec à se doter d'un tel mécanisme. La mission Old Brewery est fière de gérer 2 des bâtisses acquises par la Ville grâce à cette disposition, ce qui nous permet de mettre notre expertise au service des personnes qui y demeurent. La Ville de Montréal a aussi créé un comité de réflexion multisectoriel sur la question épineuse des personnes en situation d'itinérance qui vivent dans les espaces publics. Les travaux du comité peuvent mener la Ville et ses partenaires à adopter des mesures ainsi que des services structurés et proactifs afin de faire face à ce phénomène. Les organismes sans but lucratif qui œuvrent dans le secteur de l'itinérance sont tous en expansion afin de faire plus et mieux. Nous tentons de renverser l'importante progression du nombre de personnes sans abri ou à risque de l'être dans notre ville. Les 3 ordres de gouvernement semblent plus que jamais au rendez-vous. Mais ce n'est qu'un début. C'était le logement social et communautaire à préserver pour prévenir l'itinérance. Un texte de James Hughes, paru le 29 mai 2024 dans Le Devoir. Un coup d'épée dans l'eau. Un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 24 avril 2024 dans La Presse. Un recensement numérique visant à mieux documenter la situation de l'itinérance s'est tenu dans la nuit de mardi à mercredi, un peu partout dans la province. L'exercice est toutefois un coup d'épée dans l'eau, estime un regroupement communautaire. Les ressources d'hébergement de la province ont été appelés à répondre à un court sondage mardi soir. L'objectif était de faire la lumière sur l'offre de services d'hébergement qui s'adresse aux personnes en situation d'itinérance. Pour nous, c'est un coup d'épée dans l'eau. Peut-être que dans d'autres régions du Québec, ça va permettre d'apprendre des choses, mais pour Montréal, c'est clairement un exercice inutile pour le milieu, dit la directrice du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, RAPSIM, Annie Savage. Le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaitait notamment dresser l'inventaire des points de service des ressources d'hébergement, recueillir des données administratives sur les ressources et estimer le nombre de personnes en situation d'itinérance hébergées dans ces ressources. On est très déçus du fait que l'exercice se concentre sur la question de l'itinérance hébergée. C'est la forme d'itinérance qui est le mieux documentée, du moins pour Montréal. Nous, on n'apprendra rien de nouveau, dit Mme Savage. L'exercice ne permettra pas de dénombrer les personnes qui vivent en situation d'itinérance cachée. Par exemple, les personnes hébergées temporairement chez d'autres, sans avoir leur propre domicile, ni les personnes qui vivent dans des lieux extérieurs. Ce qu'on aurait aimé, c'est mieux documenter l'itinérance non hébergée. Toutes ces personnes que l'on refuse, soir après soir, par manque de place. Ces jeunes qui ne vont pas dans les ressources traditionnelles, détaille Mme Savage. Elle se désole qu'il n'y ait pas de question dans le sondage sur le nombre de refus dans les hébergements qui affichent complet. La presse rapportait la semaine dernière que l'été s'annonce de nouveau difficile en matière d'itinérance à Montréal. Les ressources d'hébergement sont déjà pleines à craquer et la détresse des usagers vulnérables est plus que jamais perceptible dans la rue et dans le métro. Le gros problème, c'est le manque de place pour ouvrir des ressources. Ça nous empêche de déployer des projets qui viendrait répondre à des besoins, avait alors déclaré Mme Savage. C'était « Un coup d'épée dans l'eau », un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 24 avril 2024 dans La Presse.